France Inter.
À vous qui nous écoutez en podcast, vous allez avoir le plaisir de retrouver tout de suite pour l'apéro Thomas VDB, ou plutôt peut-être Thomas Vandenberg, parce qu'il se confie beaucoup dans son livre qui s'intitule Fiascorama, où il est question de toute sa loose.
Bonjour. Les gens que je connais et ceux que je connais pas.
Ah, vous avez reconnu sa voix, c'est Thomas VDB.
Bonjour.
C'est un plaisir de vous voir.
Merci,
de te voir.
C'est un plaisir, Charline. On se dit tu.
On se dit tu.
On va pas faire comme si on se connaissait pas.
Les auditeurs savent bien.
Ouais.
Et moi, j'ai découvert plein de choses de toi dans ton livre Fiascorama. Et c'est ça que j'ai envie de faire découvrir aux auditeurs.
C'est gentil. Pas des choses forcément brillantes, hein, évidemment, parce que tout n'est pas. C'est pas que des trucs où on se dit ah, mais il a vraiment une vie incroyable. On se dit vraiment, il lui arrive des trucs de merde, ce gars-là, hein, aussi.
Ah ben viens, on va en parler.
On y va.
C'est toujours marrant, la loose.
Charline Vanhoenacker. Bistroscopie sur France Inter.
Thomas VDB. J'ai appris plein de choses vous concernant, que je vais donc faire partager à nos auditeurs en lisant le livre qui a paru il y a 2 jours, il est tout frais, Thomas VDB, Fiascorama, c'est publié chez Buchet-Chastel. Et dans ton livre, Thomas, tu expliques que tu te retrouves dans des situations souvent très inconfortables parce que tu sais pas dire non. Rassure-nous, c'est pas pour ça que tu es là aujourd'hui.
Pas du tout. Non, j'ai dit oui avec grande joie. Effectivement, je sais pas du tout dire non, mais quand c'est facile de dire oui, j'adore le dire. Je suis là, oui, bah tiens, t'as vu que je sais dire oui.
C'est vrai.
Ah non, mais j'ai un très grand plaisir à être là. De cette émission que j'écoute en plus régulièrement. Je n'ai pas tout entendu, mais j'en ai écouté beaucoup.
Et tu n'as pas oublié ce rendez-vous, ce qui est aussi pas mal, parce que l'on découvre dans ton livre, parce que tu parles beaucoup de ton expérience, de toi, de ta. C'est la partie loose hein, dans ce livre-là.
Ouais.
Tu as déjà raté des opportunités ou des projets à cause de cette loose et des rendez-vous manqués?
Énormément. Par exemple, un des premiers, dont je ne parle pas dans le livre, j'en ai plein d'autres en magasin, hein, des échecs, des trucs foirés, des trucs, je me suis dit, non, j'aurais dû faire autrement. À un moment où j'étais comédien, ça devait être vers 2008-2009, où donc juste après ce que je considère comme étant le relatif échec de mon premier spectacle solo, à ce moment-là, je fais, je vais pas dire feu de tout bois, mais je ne sais vraiment pas dire non et je dis oui à tout. C'est-à-dire qu'on m'appelle, ouais, on a besoin d'un figurant pour un sketch sur Internet, mais on y va, je viendrai avec plaisir toute la journée sur ce plateau de tournage pour dire un mot à l'arrière-plan s'il le faut. Et 2 jours après, Philippe Manœuvre, qui est donc le rédacteur en chef de Rock & Folk à l'époque et pour lequel je continuais encore un petit peu d'écrire ponctuellement, m'appelle un jour en me disant « Thomas, j'ai un truc de dingue à te proposer. Tu vas aller dans 2 jours à Londres rencontrer Queen et tu vas manger avec eux. Ils ont 3 heures à passer avec toi. » Et je dis « Ah ben non, parce que moi, je suis figurant sur un sketch internet. » Et j'étais toute la journée, mais le mec le plus maussade sur le tournage. Les gens me parlaient. Et donc, je me souviens, le tournage devait se terminer à 19h. Et donc, à 19h01, il n'est pas fini et je suis là, bon c'est fini ou quoi le tournage? Je suis d'hyper mauvais poil parce que toute la journée je me dis, mais qu'est-ce que je fous là? J'aurais pu aller rencontrer mes idoles de jeunesse.
Mais t'as pas annulé ce rendez-vous de figurant?
Ben non, parce que les gars ils étaient, ah super, on est content que t'aies ce petit rôle.
Mais c'est tout à ton honneur de pas avoir annulé ça.
Ouais, et pourtant je peux être un grand annuleur. J'ai une grande passion de l'annulation.
Ah.
J'adore quand les gens annulent des trucs. Je suis là, ben voilà, comme ça, il n'y a pas besoin de le faire. C'est un truc en moins à faire et c'est toujours un peu réjouissant. Il y a toujours un côté réjouissant dans l'annulation.
Oui, vous n'êtes pas qu'un enfant de cœur.
Non.
Parce que tu écris dans Fiascorama, le livre qui vient de paraître, je te cite, « Être sympa m'accroît. Je ne le sais pas encore, mais je vais porter toute ma vie comme une sorte de poids, la réputation d'être sympa. Parce que quand les gens disent que tu es sympa, tu te sens un peu obligé de l'être, histoire de valider ta réputation. » Je me suis dit, mais est-ce que la vie est vraiment plus facile aux gens antipathiques et que c'est difficile d'être sympa quand on l'est vraiment?
Eh ben, c'est difficile quand on se dit, j'aurais mieux fait d'annuler ce tournage et de dire oui à Philippe Manœuvre. Et donc, ouais, je pense que j'ai un vrai problème si je laisse mauvaise impression aux gens. J'ai un peu l'impression de devoir être fidèle à une sorte de réputation. Je me disais, parce que si d'un seul coup, je me disais, allez, maintenant, je dis non quand j'en ai envie et tout, j'ai peur que les gens ils disent, ah, mais il est devenu un peu connard, Thomas VDB. Et donc, je suis là, alors qu'en fait, il ne tient qu'à moi de décider de changer de personnalité. Mais c'est trop tard à 48 ans pour changer de personnalité, voilà.
Et là, vous êtes aussi très naïf et ça vous joue des tours, racontez-vous.
Ben, naïf, oui, je pense que...
J'ai dit vous.
Ouais, on se dit, oui, tu peux me dire vous, hein. Vas-y, vous pouvez me dire tu. Ouais, je pense que je me fais encore avoir, par exemple. Énormément de fois dans la vie, je me suis fait avoir, je me suis fait escroquer de l'argent, par exemple. Mais donc, j'en avais écrit énormément d'exemples dans le livre, au point qu'à un moment, mon éditrice, Clara, m'a dit « Non, je pense que là, on a compris vraiment que tu te fais beaucoup couillonner.
» Mais non, vous faites de l'argent là-dessus, donc vous récupérez la mise.
Ben finalement, j'y avais pas pensé, mais c'est vrai que c'est une façon de récupérer tout ça. Et donc, effectivement, à chaque fois que je me fais arnaquer de l'argent, à chaque fois, je me dis « Bon, ça, c'est la dernière fois, la prochaine fois, Tom, tu fais gaffe !» Parce que tu devrais aller voir venir les mecs qui sont en train de t'entourlouper et tout. Et puis deux jours après, je me fais escroquer par un mec, par un serrurier, par voilà, j'ai déjà payé une somme.
Vous n'êtes pas le seul à mon avis.
Ah non, mais par contre,
avec tout le respect qu'on a pour les serruriers qui nous sauvent la vie.
Ça m'est déjà arrivé de payer une somme à un serrurier qui a une somme qui fait que même si j'avais été invité chez Julien Courbet, il serait tombé de sa chaise. Il aurait dit, mais vous n'êtes pas une vieille femme de 96 ans. Et je suis là, oui, mais bon, je sais pas, le serrurier, il m'a dit qu'il fallait réparer, il m'a dit que c'était ce prix-là. Donc voilà, donc des histoires comme ça, j'en ai pléthore.
Thomas, t'es un gars du Nord, né à Abbeville. Mm-hmm. Donc là, on est dans la baie de Somme. Mm-hmm. Enfance à eux, un peu plus dans les terres, là. C'est comment de grandir à eux?
Eux, c'est une ville qui est donc de 8000 habitants, qui est collée à Mers-les-Bains et Le Tréport. Donc, c'est trois villes donc, qui sont au bord de la mer, ont la particularité d'être, on les appelle les trois villes sœurs. Le Tréport, qu'on appelle dans les guides touristiques le Las Vegas de la moule frite, et qui porte très très bien son nom, parce que quand on arrive vraiment sur le port du Tréport, on est là, ça scintille de partout, mais il y a énormément le mot moule qui brille et qui clignote de partout. Donc c'est très joli, c'est là que j'ai grandi, c'est là que j'allais me balader le dimanche avec mes parents. Eux, c'est une ville hyper bourgeoise, mais vraiment très très bourgeoise.
Plus que Mers-les-Bains, dont le front de mer, on peut le dire, est très 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 joli, on vous conseille d'aller vous balader.
Ah ben c'est magnifique, c'est enclavé dans les falaises, entre les falaises de Mers et du Tréport. Eux, je m'en suis... En fait, j'ai réussi à avoir un regard sur cette ville, peut-être que 10 ans après l'avoir quittée, réussir à comprendre l'impact que ça avait eu sur moi de grandir dans une ville qui, me suis-je rendu compte beaucoup plus tard, était, comme je le dis, hyper bourgeoise. Parce que je me suis rendu compte de l'univers dans lequel j'évoluais. Bon, j'ai grandi, moi, mes parents étaient catholiques, ils m'emmenaient à la messe, et donc j'étais entouré de familles avec des noms à particules et tout, et c'était... Mais pour moi, c'était le quotidien, ça.
Ah oui.
Et après...
Alors que vos parents, c'est la petite classe moyenne.
C'est la petite classe moyenne.
Il n'y a pas moyen d'aller tout le temps à l'Aqualude.
Et ils n'avaient pas les moyens de m'emmener tous les week-ends à l'Aqualude du Touquet. Hein, parce que le Touquet n'est pas très très loin, j'allais pas souvent au Touquet. Mais voilà, autant il existe la gauche caviarge. Dans le premier livre, je disais que mes parents étaient plutôt de la droite, eux de l'imp. C'est-à-dire, effectivement, on sent qu'ils ont envie de droite, mais ils ont moins les moyens d'être de droite comme ils voudraient.
Ils ont les codes de la bourgeoisie, mais pas l'argent. C'est un peu ça.
C'est un peu ça, on va dire.
Et donc, mais c'était chouette, grandir à eux.
Oui, j'étais.
C'est pas loin de la mer.
C'est pas loin. En fait, j'ai pris conscience de ce que ça représentait pour moi que des années plus tard. Parce qu'en fait, je crois que étant arrivé en Touraine après, donc dans la douceur de vie tourangelle qui est hyper agréable, hein, les bords de Loire au printemps, pour moi, c'est un des trucs les plus agréables à faire. Les premières années où je suis revenu, quand je retournais à eux, Mers le Tréport, je voyais la brique rouge et je me suis dit, mais c'est là-dedans que j'ai grandi, mais c'est pas possible, c'est hyper cafard. Et des années plus tard, je me suis dit, mais non, mais en fait, c'est là que tout a commencé pour moi. Et finalement, je suis redevenu extrêmement attaché à cette région. Voilà, l'architecture, même aux côtés du Nord, en fait. C'est pas vraiment le Nord Pas-de-Calais, mais on s'en rapproche vachement au niveau de ce à quoi ressemblent les immeubles et tout ça.
Et dans l'état d'esprit aussi,
Et dans l'accent un peu aussi.
Je n'avais pas osé vous le demander, mais...
Un peu comme ça. Quand j'étais petit, d'ailleurs, j'avais l'accent quand je suis arrivé en Touraine, qui est supposément l'endroit en France où il n'y a pas du tout d'accent. Ma mère n'avait jamais eu d'accent et donc quand je suis arrivé en Touraine, je parlais un peu comme ça et ma mère à chaque fois elle me disait mais on dit pas comme ça, on dit comme ça. Et moi je mais quoi? Bon enfin voilà, vraiment j'ai mis des années avant de réussir à faire un A normal.
Je sais toujours pas dire 8, donc c'est pas moi qui vais vous jeter la pierre.
Vous savez bien.
Tu as grandi dans une famille nombreuse, Thomas VDB?
Ben, j'avais deux grands frères, une petite sœur, donc oui on était 4 à la maison, ça pouvait jamais être bien rangé quoi.
Ça vient de là.
Ouais, certainement qu'il y a une validation induite du bordel ambiant autour de moi. Ouais. Et puis surtout, mon père était le 12e enfant, le 12e et dernier. Donc lui, il avait 11 frères et sœurs aînés et qui eux-mêmes avaient beaucoup d'enfants. Donc j'ai énormément de cousins et cousines, de cousins germains et issus germains, tout ce qu'on veut. Donc je crois que si on regarde la descendance de mon grand-père paternel, avec ce qu'on appelle les pièces rapportées, c'est-à-dire garçons et filles qui sont mariés, machin. J'ai plus de 300 cousins du côté de mon père. Donc il y en a que je connais pas, que je croise dans la rue, je saurais pas les reconnaître.
Il y en a un qu'on connaît tous.
Il y en a un qu'on connaît tous, et je ne le compte même pas dedans, si c'est à Laurent Wauquiez qu'on parle. Si c'est de Laurent Wauquiez qu'on parle, Laurent Wauquiez n'est trop éloigné de la famille pour que j'ai jamais eu à le croiser dans une de mes réunions de famille.
Vous l'aviez dit un jour dans une chronique sur France Inter, où vous aviez découvert que Laurent Wauquiez, vous aviez une parentalité. Et c'est quoi d'avoir le même ADN que Laurent Wauquiez alors?
Ben, le jour où on le découvre, vraiment, ça glace le sang. Ça, c'est un truc.
Ah oui, à ce point-là?
Non, mais j'avais déjà fait des chroniques où je le taquinais, où je me moquais quand même pas mal de lui. Et l'été, où il y a 3 ans, où une cousine m'informe et m'apprend que je suis de la famille de Laurent Wauquiez, je suis là, non mais tu plaisantes, il y a une erreur dans l'arbre généalogique, je sais pas, tu t'es trompé quelque part. Et elle me dit, non, c'est vraiment... Et donc, je me suis dit, bah tiens, ça fait au moins l'objet d'une chronique à France Inter, quand on faisait l'émission ensemble, je me suis dit, on se fout tellement de la gueule de Laurent Wauquiez que je pense c'est au moins que je fasse ce truc de dire, bon, bah, j'ai un coming out à faire, je veux dire, j'ai découvert cet été que c'est mon cousin. Donc j'ai eu cette urgence de devoir le dire, parce que je me suis dit, mieux vaut que je l'apprenne aux gens, que ce soit eux qui l'apprennent tout seul, sinon ça va retomber.
Que lui le dise.
Et il avait sympathiquement, toutefois, reposté ma chronique. Ah. Mais bah, on n'a pas gardé contact.
Est-ce que pour autant, t'as un petit côté LR?
Alors, pas tant, hein, j'irais vraiment pas tant. Si LR, là, je regarde Bruno Retailleau, j'irais pas tant. Mais LR, non, c'est LR aujourd'hui.
Il n'y a pas un point commun entre toi et Laurent Wauquiez? Pas un seul?
Ah, ben si, je pense. Mais c'est entre moi et.
Quand enfin, t'invites en fait... des amis au resto, la facture, par exemple, je sais pas.
Ah ben c'est moi qui régale. Sauf si j'ai la carte de France Inter, mais bon, c'est pas.
France Inter. Bistroscopie. Charline Vanhoenacker.
On parle de votre famille, de ta famille, Thomas VDB. C'est un ami de la famille qui te donne le virus de la blague. Tu racontes dans Fiascorama, ton livre, une sorte d'illumination comme ça qui t'a fait éclater de rire.
Alors exactement, j'ai ce souvenir vraiment frappant. Un jour, et donc je commence le livre là-dessus, où je suis chez mon cousin qui est un jeune chien. Et donc ma mère m'avait dit, ah, on va aller voir le chien de Bertrand. Cet après-midi, on va aller à la ferme voir le cousin de Bertrand. Parce qu'on ne sait pas toujours quoi faire. Et donc ma mère me dit, voilà ce qu'on va faire cet après-midi. Il avait un chien, ça faisait une occupation, ça faisait un truc à faire. Et on arrive et je vois un petit chien tout mignon. Et donc on est là avec mon cousin et qui est à côté. Et donc je caresse le chien. Et donc je dis à mon cousin, je dis, oh, mais il est trop beau le chien. Je dis, mais il est tatoué? Et là, mon cousin, du tac au tac, me répond comme ça. Il dit, non, il est tamoué. Et alors là, moi, il y a un truc qui se fiche dans ma tête, je comprends plus, je suis dans le multivers. Je me dis, tu viens de l'improviser, ça? Et je me dis, mais si dans ma vie, une seule fois, je serais capable de sortir une telle fulgurance, voilà. Et donc, je me suis dit, je crois que j'ai entendu cette blague, je me suis dit, voilà, c'est ça que je veux faire. C'est ça que je veux faire dans la vie, être capable de sortir des blagues ou des jeux de mots comme ça. Et donc, voilà, je m'en sers comme... du pied de départ qui m'a donné envie de faire des blagues dans la vie. Je sais pas si c'est la stricte vérité, mais en tout cas, je raconte que c'est le premier souvenir que j'ai de m'être dit, voilà un truc que j'ai envie de faire.
Thomas VDB est né de cette blague, il est tatoué, non,
de ce
il est
jeu
tamoué.
De mots avec, qui marche avec l'accent picard. Hein.
Ah oui. Et donc, refais-le avec l'accent picard.
Non, il est tamoué. Bon, voilà, mais ça marche mieux.
Alors, quand est-ce que Thomas Vandenberg est devenu Thomas VDB, véritablement?
Alors, au moment où, quand j'ai quitté la presse musicale en 2005. Donc je faisais déjà beaucoup de théâtre de rue en parallèle avec mon camarade Rodolphe, dont je parle beaucoup dans Fiascorama.
Ouais, on va y venir, ouais. Donc c'est pas les comédies clubs, hein, c'est vraiment le théâtre de rue.
Là, c'est du théâtre de rue. Ah, donc ouais. C'est Festival d'Aurillac, le Festival de Luxeuil, Chalon-sur-Saône. Voilà, on a joué ce spectacle des centaines de fois. Et on était dans ce spectacle, Rodolphe il s'appelait Freddy Coup-de-Boule et Thomas, moi je m'appelais Enrique. Donc on était maquillés, j'avais une fausse moustache, les cheveux plaqués en arrière. Et puis en 2005, je quitte la presse musicale parce que je me dis déjà j'en avais un peu marre. J'adorais toujours la musique, mais les responsabilités me pesaient. Et en fait, je me rends compte qu'avec ce spectacle, on fait assez de cachets finalement pour que je puisse être intermittent du spectacle. Donc je me dis bah génial. En fait, j'arrête la presse, voilà. Et je découvre à ce moment-là le stand-up anglo-saxon. Je découvre particulièrement des séries comme The Office en 2005. Je découvre ça, ça me bouleverse. La série Curb Your Enthusiasm et les stand-up de Eddie Izzard, un comédien anglais que je trouvais absolument incroyable. Un copain, Benjamin Parent, me fait découvrir un spectacle de Eddie Izzard, je vois ça et je suis là, mais je suis vraiment scotché.
Il est britannique.
Britannique, et je le vois être lui-même sur scène, extrêmement détaché, extrêmement drôle, ne pas se prendre au sérieux, mais ne pas être dans un personnage, c'est-à-dire il n'est pas habillé, c'est lui sous son propre nom, quoi. Et je me dis, alors que j'avais déjà vu des comiques que j'adorais en France, hein, enfin que ce soit des proches avant ça, qui est une énorme découverte pour moi quand j'étais gamin, je me dis, mais j'ai un truc à assumer sous mon propre nom, où je vais raconter des histoires qui me sont arrivées, donc bah, voilà, faire du stand-up, je me dis, mais oui, j'ai un espace en moi là où ça peut rentrer. Et à partir de là, je commence à écrire des trucs. J'écris ce qui va devenir les ébauches de mon premier spectacle, avec Benjamin Parent d'ailleurs à l'époque. Et donc, je me retrouve à être programmé dans un tout petit comédie club à Paris. Et je me dis, mais Thomas Vandenberg, c'est pas possible. Les gens, ils se trompent tout le temps dans l'orthographe. Ils vont pas réussir à se rappeler comment je m'appelle et tout. Et il y avait cet acronyme qui circulait un peu dans la famille depuis gamin. On disait les Vandenberg, c'est des fois, c'est les VDB. D'ailleurs, je sais que c'est un acronyme qui est très répandu en Belgique parce qu'il y a beaucoup de Vandenbrug, Vandenbosch, Vandenberg.
Vous en avez une devant vous, donc.
Voilà, exactement. Donc, c'est quoi VNH? On dit quoi?
Je sais pas. Je me suis posé la question parce que vous écrivez Thomas Vandenberg, c'est pas possible. Ça fait élève de cinquième dont on se souvient vaguement du nom.
Oui.
C'est-à-dire qu'on ne fait pas carrière en s'appelant Van quelque chose.
Ben non, mais le nom est trop long, quoi. Je trouve que c'est joli, mais je trouvais que ça faisait pas nom de comique. Je sais pas pourquoi.
Adèle Van Rett appréciera. Faudrait qu'elle prenne un pseudo aussi comme nous,
peut-être.
Alors.
Ouais. J'avais pas pensé à elle en l'occurrence. Non. Et donc je me dis, tiens, VDB, ça sonne bien. Thomas VDB, je trouve. Et donc je monte sur scène dès janvier 2006. Et j'ai l'impression d'avoir inventé un personnage parce que j'ai juste modifié un petit peu l'écriture de mon nom.
Ouais.
Et donc j'ai l'impression d'avoir une nouvelle peau et d'avoir quelqu'un qui s'assume différemment parce que je me dis, c'est pas Thomas Vandenberg, c'est pas Enrique, le gars de Freddy Kuboul qui campe vraiment un personnage. Ouais. C'est un truc à cheval entre les deux, c'est le Thomas Vandenberg pour la scène, c'est Thomas VDB quoi.
On évoquait ce spectacle Freddy Kuboul, vous étiez en duo et vous étiez Enrique. Aujourd'hui on vous connaît quand même comme humoriste engagé. Notamment sur le climat, Thomas VDB, ça climate. Politique, vous démarrez quand même sur scène avec ce duo où vous lancez une savate dans le public, vous gobez des flambis et votre comparse, il gonfle un préservatif qu'il a mis sur la tête avec son nez. Donc j'ai envie de savoir à quel moment vous êtes politisé. Comment ça s'est fait?
Alors déjà, c'est très... J'ai absolument pas... Alors, non, je ne vais pas dire absolument pas. J'ai l'impression d'être moins un humoriste politique que ce que les gens peuvent penser. C'est-à-dire, je m'empare de sujets qui sont omniprésents dans l'actualité, dans lesquels il est parfois question d'hommes politiques, mais je ne fais que parler avec ce que j'estime être mon bon sens personnel, parce que d'autres gens ne sont pas d'accord avec le mien. Hein. Et puis, je ne suis pas une lumière politique, ça se saurait, hein, si les gens, si j'étais vraiment d'une influence très importante dans la politique. J'ai l'impression d'avoir été capable de m'emparer de ces sujets-là quand j'ai commencé à vraiment avoir confiance en moi, ce qui a mis du temps à venir, parce que la confiance en soi, elle est un peu amochée quand même au début. Quand on commence dans la comédie, elle a mille raisons de pouvoir être amochée, la confiance en soi. Et
c'est
ce que je raconte beaucoup dans le livre. Je raconte beaucoup de bides, des trucs comme ça. Et je pense que dès lors que j'ai eu confiance en moi et confiance, en mon humour, je me suis dit, ah mais là, je pense que je me retrouve à avoir des trucs à pouvoir dire sur François Fillon, sur, Mélenchon, sur Sarkozy. Et donc, à partir de là, je me dis pas, je vais avoir une réflexion politique. Je me dis tout simplement, je vais regarder où est la mauvaise foi. Parce que la mauvaise foi, c'est un sujet qui me passionne. La contradiction, c'est des trucs qui me passionnent. Mmh. Dès que je vois quelqu'un qui dit B alors que la veille, il a dit A dans les médias, je suis là, vu. Je vais peut-être faire une chronique là-dessus. Parce que... c'est humain de se tromper, c'est humain de changer d'avis. Mais j'adore les gens qui disent « Non, non, j'ai pas dit ça ». Et la politique en regorge de gens qui disent « Non, 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 c'est pas exactement ce que j'ai dit ». Si, je t'assure que c'est exactement ce que tu as dit. Donc j'ai pas l'impression de parler de politique, j'ai juste l'impression de parler de gens qui se contredisent ou qui veulent pas reconnaître leur tort. Et ça, c'est une des grandes maladies du monde, hein, les gens qui veulent trop avoir raison. Les gens qui vraiment ne se sentent épanouis qu'en ayant raison. Et ça, je trouve ça assez fascinant. Et donc... pour ça, la politique m'intéresse, mais j'ai pas l'impression que ça fasse de moi un humoriste politique. Et je ne veux pas m'interdire non plus de pouvoir faire des sketchs qui sont absurdes totalement. On parlait de Freddy Kuboul avec lequel j'ai commencé. Et j'ai envie de pouvoir m'autoriser aussi à faire des choses complètement absurdes qui sortent du contexte politique. Et ça dépend de ce qui m'inspire au moment où une idée me vient, en fait.
Charline Vanhoenacker, Bistroscopie sur France Inter.
Si vous nous rejoignez, c'est Thomas VDB qui est avec nous.
Il est là,
ce
il
soir.
Est revenu. Il est revenu sur France Inter.
Mais oui, c'est vrai que vous êtes parti sur la pointe des pieds. Vous avez fait 15 ans quand même sur cette chaîne.
J'ai fait énormément d'années. Je raconte mes tout débuts dans le livre.
Dans Fiascorama.
Absolument. C'est-à-dire qu'en fait, Inter m'a donné énormément de moments de joie. Énormément. On en a partagé beaucoup, Charline.
C'est vrai.
Et... Mais les tout débuts, les gens, il y a peut-être des auditeurs qui ont eu le loisir assez difficile de me découvrir il y a 15 ans quand j'ai commencé Inter. Mais c'est ce que je raconte dans le livre.
À 11h,
effectivement, je commençais chez
Le Fou du Roi
chez Stéphane Bern. Et j'ai eu pas mal de gadins, de chroniques quand même, au point qu'à un moment j'étais étonné qu'on m'en rappelle. Et je le dis dans le livre, même quand je revenais, je voyais la tête des autres chroniqueurs et quand ils me disaient bonjour, ils avaient l'air un peu étonnés. Genre, j'avais l'impression qu'ils se disaient tiens, ils l'ont rappelé lui. Et j'étais.
Et
parce que j'ai vraiment fait des trucs, mais un peu cata quoi.
On peut en citer un peut-être que vous citez dans le
15. Je me souviens de beaucoup d'invités qui me regardent et vraiment avec les yeux en se disant mais ça vient, quand est-ce qu'on arrive à un moment pertinent dans cette chronique?
Vous êtes entré dans la vie active, Thomas VDB, en devenant journaliste musical, vous y avez fait allusion tout à l'heure. Le journalisme, c'était une réelle vocation?
Pas du tout. Pas du tout. Mais en fait, non. Mais ce qui était mon immense joie de me retrouver journaliste de musique à l'époque, c'est parce que j'étais fan de musique. Mais en fait, c'est comme si j'avais été fan de voiture et que je m'étais retrouvé journaliste chez Auto Plus. Moi, juste, je savais écrire. Je savais, j'étais bon en orthographe et j'adorais la musique. Donc, la juxtaposition de ces deux trucs-là a fait que c'était pertinent que je me retrouve dans un magazine de musique. Mais à la base, j'étais pas journaliste. Moi, à la base, moi, mon rêve, c'était de rencontrer les artistes dont j'étais fan. Ce que mon expérience de journaliste musical m'a permis de faire, au point que quand j'avais coché tous les artistes que j'avais rencontrés, je suis parti beaucoup plus libre de la presse. Je suis là, mais en fait, ça m'intéresse pas tant que ça de devoir
tu
écouter.
Tu parlais de responsabilité tout à l'heure.
Oui.
C'était des responsabilités et c'est pour ça que je suis partie faire de l'humour.
Exactement.
Quelle responsabilité?
Ben, en fait, au début, j'étais juste journaliste. J'étais embauché en journaliste. Et donc, on me disait, Thomas, il faut que tu ailles à New York interviewer les Deftones. Et donc, j'étais là, mais moi, pas de problème. Je pars quand vous voulez. Et donc, quand j'étais journaliste, on m'envoyait souvent aux États-Unis, au Mexique, en Angleterre, souvent pour faire des interviews. C'était génial. J'avais une vie incroyable. Enfin, j'étais là, c'est trop bien. J'étais jamais allé aux États-Unis de ma vie. J'y allais pour la première fois là, pour le boulot. Ça me semblait invraisemblable d'aller aux États-Unis pour le boulot. Et donc, ensuite, mon rédacteur en chef est parti. Et donc, j'ai été nommé rédacteur en chef. Et ensuite, j'ai été nommé éditeur délégué. Parce que j'étais là, mais attends, mais mes parents vont halluciner. J'ai juste accepté pour que mes parents hallucinent, en fait. Et puis, parce que c'était mieux payé. Et donc j'étais là, ouais, je suis éditeur délégué. Et je me rends compte qu'à partir de là, éditeur délégué consiste à déléguer. Et donc à dire, et non plus à aller à New York interviewer les groupes, mais à dire aux journalistes de la rédaction, bah, tiens, c'est toi qui vas y aller, c'est toi qui vas y aller. Et moi, je suis là à devoir rendre des comptes à l'éditeur qui me dit, bah, alors combien on a vendu de journaux ce mois-ci? Je sais pas, peut-être peu, je m'en excuse si c'est le cas. Et donc j'étais là, parce que je veux pas avoir de compte à rendre là-dessus, moi. Et donc, à partir de là, j'avais des rendez-vous. Ça, c'était dans mon premier livre. Je parlais du mec qui était là. Bon, Thomas, je t'ai fait venir pour qu'on parle un peu du grammage du papier. Je dis, non, je veux pas parler de ça, moi. Le mec, il me faisait toucher des échantillons de papier. Il me dit, ah, qu'est-ce que t'en penses? Je dis, c'est du papier. Mais bon, j'étais là. Et donc, du coup, on me sollicitait pour des questions. Je n'avais rien à dire. Et donc, voilà, j'étais celui qui devait rendre des comptes. Alors que moi, à la base, j'aimais juste écouter de la musique dans ma chambre. Donc je trouvais que le pont avait été un peu rapide entre devoir rendre des comptes à un éditeur, alors qu'à la base, j'étais juste un mec qui collectionnait les disques.
Cela dit, tu as l'expérience du journaliste, et avec ce regard-là, tu expliques dans Fiascorama, tu observes les autres t'interviewer, et tu dis que ce soit dans les journaux ou à la télévision, les questions sont toujours tournées pour me pousser à répondre avec des blagues du spectacle. Je me suis demandé, est-ce que quand les journalistes ont un comique devant eux, est-ce qu'il y a une forme un peu de « allez, c'est la récré ». Une forme de paresse.
Ah, ben ça, c'est à toi de me le dire, Charline, je sais pas. Mais je pense que c'est très facile de. Oui, peut-être que ça peut autoriser une certaine paresse quand on interview un comique parce qu'on se dit, ouais, c'est bon le gars, s'il est sympa, ça va aller. J'ai souvenir d'avoir fait. Je vais pas donner de nom, mais j'ai fait de la radio à France Inter avec un animateur qui ne préparait absolument pas ses interviews. Et il avait une émission assez longue, hein. Et donc, je le voyais, des fois, j'arrivais aux ondes, là, le café devant France Inter. Et donc, j'étais là, moi, l'émission commençait à 11h. Bon, les gens vont pouvoir retrouver qui c'est au bout d'un moment, hein, je pense. Mais bon. Et donc, je voyais arriver à 11h-5 pour prendre l'antenne avec l'animation. Et il y avait, si l'invité, c'était Vincent Delerme, hop, il était là vite, il sortait le CD. Je le voyais avec ses dents ouvrir le CD comme ça à 11h-5. Il était là avec son manteau et tout, et il regardait le livret pendant 2 secondes. Et puis il arrivait, et donc je voyais qu'on arrivait autour de la même table pour faire l'interview, et je voyais que là il était en roue libre absolue. Et c'était alors Vincent Delerme, c'est super, vous êtes venu, il y a le nouveau CD, racontez-nous un petit souvenir. Allez, un petit souvenir, Vincent Delerme. Et l'interview a commencé comme ça. Mais juste au pif, un souvenir. Une petite image. Allez, racontez-nous une image qui vous passe par la tête, là. On y va. Je dis, mais c'est facile de faire une interview, alors. Et donc. J'espère qu'il n'écoute pas France Inter. France Inter écoute là. Bon.
Non, parce qu'il y a longtemps. Donc
ouais, c'était
pas
longtemps,
si
voilà.
Évident à retrouver.
Mais moi-même, quand j'étais journaliste, j'ai beaucoup utilisé ce truc. Par exemple, des fois, je faisais 3 interviews dans la journée. J'ai pas été un journaliste hyper scrupuleux tout le temps. Des fois, on me demandait d'interviewer un artiste dont j'avais écouté le disque et je disais, oh non, je suis pas trop aimé. Et puis là, le rédacteur me disait, non, mais faut aller l'interviewer quand même. Parce que, voilà, y a personne d'autre. Et tout. Donc, j'allais parler à un mec dont j'avais pas trop aimé la musique. Donc, j'étais là, alors, t'es de Londres? Belleville, Londres. Hein. Alors, une petite image sur Londres, là, qui te passe par la tête? Le pont, la Tamise?
Pourtant, l'humour, c'est des tas de problématiques. Ce serait quoi les problématiques aujourd'hui quand on fait de l'humour tel que tu le pratiques toi?
La problématique, c'est être capable d'encaisser le fait qu'une blague qui ne va pas plaire, enfin des rafales de merde qu'on peut se prendre sur une blague qui ne plaît pas. Aujourd'hui, n'importe quelle blague est inflammable, quasiment. N'importe quelle blague est inflammable. Enfin, c'est-à-dire que n'importe quelle blague peut vexer quelqu'un, peut blesser quelqu'un, peut se dire, hey, tu dis ça par rapport à moi, et tout. Mais pas du tout. Et donc, il est très facile de se sentir visé par une blague. Enfin, toute blague vise quelqu'un. Même quand je fais de l'autodérision, même si je me pète la gueule et que je dis, ah, je suis tombé dans la rue, j'avais vraiment l'air d'un con. Là, les gens vont être là, ah ouais, bah, tu te moques des gens. Qui tombe dans la rue. Non, c'est pas un bon exemple. Mais c'est pas un bon exemple.
Non,
mais à part l'autodérision, en l'occurrence, dès que tu te moques de quelqu'un ou de quelque chose, tu stigmatises. T'es obligé d'utiliser des grands traits qui... Et donc, je trouve qu'aujourd'hui, c'est très. Ouais, il faut être capable de pas se préoccuper de ce que des retours négatifs potentiels que tu peux avoir. Je me répète là.
On coupera.
Bien sûr. Faites quelque chose d'intelligent avec tous les trucs confus que je dis, s'il vous plaît. Moi, je dis des mots, je donne des syllabes et après vous les rassemblez, vous faites un truc intéressant.
Justement, vous confiez dans Fiascorama, votre livre, Thomas VDB, que tu es TDAH.
Oui.
Qu'est-ce que c'est?
Alors, TDAH, ça veut dire un trouble de l'attention avec ou sans hyperactivité. Alors, évidemment, plein de gens ne prennent pas ce truc-là au sérieux. Moi-même, je ne sais pas si je le prends au sérieux, si c'est vraiment, je sais pas si c'est une condition, si c'est une maladie que j'ai. Mais.
Tu t'es pas fait diagnostiquer?
Si.
Ah, si.
Ah, ben, j'ai 19 sur 20 au test, vraiment, là. Mais disons que moi, je peux m'asseoir à mon bureau, par exemple, il est 14h, et je me dis, bon, allez, je me mets à bosser. Alors, et hop, il est 18h. C'est-à-dire qu'en fait, et entre-temps, j'ai regardé des clips, j'ai noté un truc, j'ai essayé de me coller à 20 trucs de boulot, mais il n'y a rien qu'à avancer, et j'y ai passé l'après-midi. C'est-à-dire que je me disperse dans ma tête, c'est-à-dire que là, je parle, et puis d'un seul coup, hop, je pense à Jean Carmé, on ne sait pas pourquoi, et je passe à autre chose. C'est-à-dire qu'il y a des images qui me traversent la tête, des pensées, je ne sais
pas.
C'est
moi qui vous fais penser à Jean Carmé.
Non, j'ai dit Jean Carmé, mais parce que la vitesse à laquelle ça va dans ma tête, ça ne veut pas dire que c'est intéressant. Ça ne veut pas dire que je pense à des choses intéressantes. Mais je ne suis pas maître de la façon que j'ai de penser, de changer de sujet, de me perdre et tout.
Mais c'est pas facile à vivre, ça.
Ben, on perd beaucoup de temps. Et alors, j'ai vu un spécialiste.
On en fait perdre aux autres aussi ou pas?
Quand on vit avec quelqu'un, oui. D'où le fait que ma compagne puisse me trouver infiniment désorganisé. C'est-à-dire que, mais vraiment infiniment désorganisé. C'est-à-dire que j'ai beau faire des efforts pour me structurer et tout, ça reste hyper, hyper compliqué.
Votre dernière foirade en date, c'est que vous avez supprimé un chapitre de ce livre dans les épreuves, donc, c'est-à-dire avant publication. Les journalistes, eux, ont lu
les premières épreuves
et vous ont dit ce chapitre est génial.
Ouais.
Et c'est celui que vous aviez retiré, donc il ne figure pas dans Fiascorama.
Il n'est pas dedans. Il n'est pas dedans, mais alors je peux vous dire qu'il est d'une drôlerie. Est-ce que m'ont dit effectivement, j'ai un journaliste qui avait demandé ses premières épreuves, qui les lit et qui, au moment où j'ai validé les deuxièmes épreuves, donc desquelles j'ai ôté le fameux passage, le journaliste m'envoie un texto pour me dire « Oh là là, je suis en train de lire ton livre, je me marre. » Et alors, j'ai pleuré de rire au passage. Et donc là, il me dit « Il se passe... » Et là, j'ai dit « Ah, flûte, c'est un passage que j'ai enlevé parce que je pensais qu'il était nul. » Et donc, voilà, donc ça fait, c'est pile dans l'axe du livre. Quoi. On est raccord.
C'est complètement ça. C'est une mise en abîme incroyable quand même. C'est fou.
Je pense qu'on peut se planter une fois et deux fois, mais on peut se planter 25 fois aussi. il faut pas s'empêcher d'être malheureux parce qu'on s'est planté 25 fois, qu'on s'est trompé, qu'on s'est encore gouré, qu'on a rechangé d'avis. Moi, je suis jamais arrivé quelque part, quoi. Rien ne me dit qu'aujourd'hui, je vais pas avoir un truc cata qui va m'arriver. Et je me dis, c'est ma vie est ainsi faite. Et il faut pas que ça m'empêche d'être malheureux. Il faut que j'arrive à en rire parce qu'en fait, je me fais rire tout seul dans le métro. Je suis là, des fois, dans le métro, je suis là, je rigole tout seul en me disant, mais qu'est-ce que t'as dit hier? Mais quelle honte! Et je suis là, non, mais c'est pas vrai! Et des fois, 4 ans après, je suis en train de battre des œufs dans ma cuisine et je suis là, oh là là, ce truc que j'ai dit il y a 4 ans! Et donc, des fois, ça ressurgit, mais. Et bon, il y en a plein, il y en a plein, il y en a plein!
Je voudrais terminer avec cette phrase de votre livre, vous écrivez, une des grandes leçons que j'ai retenues de mes parents. Être heureux doit être ma priorité. Vous y parvenez ?
Absolument. Je suis toujours un peu stressé, toujours un peu speed, mais c'est ça que je vise, quoi. Je vise toujours d'être heureux. Je vise pas d'être le meilleur, parce qu'en fait, j'oppose ça à ce qu'un ami de mes parents était en train de nous expliquer un jour à table. On disait que le mec, d'ailleurs, qui nous avait dit « Les enfants, ce qui est important dans la vie, c'est d'être le meilleur !» Et mes parents avaient dit, bah non, nous on pense pas ça, nous on dit à nos enfants qu'il faut être heureux. Et en fait, je n'ai jamais cessé de me mettre ça en ligne de mire. Et voilà, et le bonheur ne vient pas que du succès, je pense. Enfin, le succès ne vient pas que de salles pleines ou de choses comme ça. Je pense que je suis très heureux d'être là, je peux être très heureux seul dans le RER, je peux être très heureux, voilà, de choses très simples. Ça fait un peu pub Erta, ce que je raconte là, mais voilà, ne passons pas à côté des choses simples, c'est ça que je voulais vous dire.
Il va bien, Thomas VDB, malgré tous ces fiascos racontés dans son livre qui vient de paraître, Fiascorama, paru aux éditions Buchet-Chastel. Merci mon cher Thomas VDB.
Merci Charline, c'est un bonheur.
Ainsi s'achève Bistroscopie. Merci à Ophélie Vivier, chargée de programme, François Audouin à la réalisation, à la technique Michael Simon, au mixage Fabrice Desmaz et à la documentation Eva Canet-Paro. Je vous donne rendez-vous samedi prochain à 19h20.